Pellestrina est une péninsule de sable longue et étroite qui, avec le temps, est devenue une terre habitable. Orientée nord-sud et allant de San Pietro in Volta à Caruman, elle s'étend sur environ 10 kilomètres, mais ne fait jamais plus de 200 mètres de large. À l'est, elle donne sur l'Adriatique, aux humeurs souvent orageuses, mais l'ouest, face à la lagune de Venise, est protégée du vent, des tempêtes et des vagues. Le sol sablonneux est peu fertile, et si les habitants de Pellestrina sèment, ils ne récoltent guère, ce qui ne change pas grand-chose pour eux. D'ailleurs, la plupart réagiraient avec mépris à l'idée de gagner leur vie, si opulente fût-elle, en travaillant la terre, car les habitants de Pellestrina ont toujours vécu de la mer. On raconte beaucoup d'histoires sur les hommes de Pellestrina, sur l'endurance et la force qu'ils ont acquises dans leur lutte pour arracher leur subsistance à la mer. Les anciens, à Venise, se souviennent de l'époque où on disait que, été comme hiver, ils couchaient sur le sol en terre battue de leur chaumière, et non dans leur lit, pour pouvoir s'élancer dès l'aube et profiter de la marée qui les conduirait dans l'Adriatique, et ainsi à des pêches miraculeuses. Comme presque toutes les légendes qui nous rapportent combien les hommes étaient jadis plus robustes, celle-ci est sans doute apocryphe. Il n'en reste pas moins que la plupart des gens, surtout s'ils sont vénitiens, y croient dur comme fer, tout comme ils croiraient tout ce qu'on pourrait leur raconter sur la robustesse des hommes de Pellestrina ou leur indifférence à la douleur, à la leur ou à celle des autres. Pellestrina se réveille au début de l'été avec l'arrivée des touristes venus de Venise et de ses plages ou de Chioggia sur le continent pour manger des fruits de mer et boire le petit vin blanc vif presque pétillant qu'on sert dans les bars et les restaurants. À la place du pain, on leur propose des boussolai, sorte de bretzel dur dont le nom vient peut-être du terme boussole car ils en ont la forme. Le poisson qu'accompagnent les boussolai est souvent si frais qu'il est encore vivant quand les touristes s'embarquent pour la longue et fastidieuse traversée jusqu'à Pellestrina. À l'heure où ils sortent de leur lit à l'hôtel, les ouïes des orate luttent contre cet élément étranger, l'air. Tandis qu'ils se massent sur les premiers vaporetto au Rialto, les sardelles se débattent encore dans les filets. Et lorsqu'ils en descendent pour traverser la Piazzale Santa Maria Elisabetta, à la recherche de la navette qui les amènera à Malamocco ou à l'Alberoni, les cefali sortent tout juste de l'eau. Les touristes quittent souvent la navette à l'un de ces arrêts pour prendre un café et aller se promener un moment sur les plages de sable, d'où ils contemplent les énormes jetées qui s'étirent dans l'Adriatique pour tenter d'empêcher les eaux d'envahir la lagune. À ce moment-là, les poissons sont tous morts, ce que les touristes n'ont pas besoin de savoir. D'ailleurs, ils ne s'en soucient pas, alors qu'ils reprennent la navette pour la brève traversée de l'étroit canal, avant de continuer soit en restant à bord, soit en descendant et partant à pied vers Pellestrina et leur déjeuner. En hiver, les choses changent du tout au tout. Venus de l'ancienne Yougoslavie par l'Adriatique, des vents mordants chassent devant eux la pluie et de légères averses de neige qui gèlent jusqu'aux eaux quiconque ose rester trop longtemps dehors. Bondés pendant l'été, les restaurants restent fermés jusqu'au printemps, laissant les touristes se débrouiller et, c'est le cas de le dire, sur leur faim.